autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour changer de regard sur nous-mêmes et sur les autres. Et si nous étions tous hybrides par nature, composés et composites, multiples et même contradictoires, à la fois humains et animal, vu les milliards de micro-organismes avec lesquels nous cohabitons, incarnant ainsi les plus vieux mythes de l'humanité, mais aussi hybrides homme-machine, avec nos si nombreuses interfaces et dispositifs technologiques et numériques hybrides eux aussi. Pourquoi et comment la figure de l'hybride revient-elle en force aujourd'hui ? Et si c'était non pas pour le pire, mais bien pour le meilleur, pour sortir enfin des frontières arbitraires des espèces et des cases identitaires. Voilà la thèse, développée par nos invités magnifiquement hybrides tous les deux, le 11 octobre dernier, que nous proposons de réécouter aujourd'hui. Nous étions donc en direct avec la philosophe Gabrielle Alperne, autrice de Tous Centaures, un éloge de l'hybridation aux éditions du Pommier, et avec l'anthropologue Romain Simnel, auteur aux Presses universitaires de France de l'hybride à l'espèce, la forme du vivant de Léonard de Vinci à nos jours. Autour de la question, pourquoi faire l'éloge de l'hybride ? Bienvenue pour repenser ensemble nos métamorphoses.
On m'a dit qu'un hybride dans le règne du vivant, c'est comme le Kohinoor, c'est-à-dire c'est un croisement qui donne donc un individu qui n'est pas fertile. Alors la question, c'est vu qu'on parle beaucoup d'hybride en ce moment, qu'est-ce qu'on entend par le mot hybride ? De quoi parle-t-on exactement ?
Bonjour Gabrielle Alperne.
Bonjour Caroline.
Bonjour Romain Simnel.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous autour de cette question de l'hybride, de l'hybridité de plus en plus présente et que vous tentez chacune à votre manière de penser ou de repenser. Vous allez d'ailleurs apporter tout de suite une réponse à cette question bien légitime que vient de soulever mon confrère Romain Nikonikov du magazine Epsilon. Comment définissez-vous l'hybride, Gabrielle Alperne, en tant que philosophe qui consacre ses recherches à cette question, en tant que personne hybride vous-même, on y reviendra, autrice en tout cas aux éditions du Pommier d'un livre formidable, Tous Centaures, point d'exclamation, un éloge de l'hybride, de l'hybridité, autrice aussi d'une bande dessinée aux éditions Humaines Sciences, La Fable du Centaure. Alors qu'est-ce que l'hybride, l'hybridité pour vous, Gabrielle ?
Alors l'hybridation, je définis ce terme par l'idée de faire des mariages improbables. C'est-à-dire le fait de mettre ensemble des choses, des métiers, des générations, des arts, des sciences, des matériaux, des secteurs qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais justement mis ensemble, eh bien, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. Alors un tiers lieu, un tiers secteur, un tiers métier, un tiers usage, en tout cas de nouveaux mondes. Voilà.
Donc l'hybride, ça n'a rien à voir avec une voiture hybride, par exemple. C'est vraiment, il faut que ça change l'un et l'autre des
oui,
alors, protagonistes.
Alors effectivement, alors on parle de voitures hybrides, mais à mon sens, c'est en tout cas un usage impropre de ce terme, parce que les voitures hybrides thermiques électriques, finalement, c'est une forme d'alternance, voire une forme de juxtaposition, mais il n'y a pas d'hybridation là-dedans. C'est là où justement, c'est tout le sujet de mes travaux de recherche, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur cette question de l'hybridation, parce qu'en fait, derrière ça, c'est la question de la relation entre les deux termes, justement, que l'on réunit. Quelle est leur relation ? C'est pas de la juxtaposition, c'est pas de l'alternance, c'est pas de la fusion, c'est pas de l'assimilation de l'un sur l'autre, voilà. C'est cette idée d'hybridation sur laquelle je reviendrai un peu plus tard.
Romain Simnel, alors c'est à vous de nous donner votre définition de l'hybride. Vous êtes anthropologue, chercheur à l'IRD, au Muséum National d'Histoire Naturelle, un ethno-anthropologue hybride lui aussi. On vous a croisé au Maroc, vous travaillez aussi en Inde, vous revenez du Japon. Oui. Et vous venez de publier aux Presses universitaires de France De l'hybride à l'espèce, la forme du vivant de Léonard de Vinci à nos jours. Mmh. Alors qu'est-ce que l'hybride pour vous, Romain Simnel ?
Alors l'hybride, en fait, c'est un être composé. Dans ce que je fais, un être composé de parties d'espèces différentes, qu'ils soient réels ou imaginaires. Donc, ça veut dire que ça englobe à la fois, par exemple, le minotaure, mais aussi, par exemple, le tigon, qui est un mélange entre le tigre et le lion.
Donc, donc ça peut être un hybride réel comme un hybride biologique,
tout à
comme
fait.
Un hybride imaginaire.
Exactement. L'important, c'est qu'en fait, l'hybride, dans les deux cas, c'est un exercice de combinaison du vivant. Donc c'est un exercice de combinaison auquel les humains ont toujours se sont adonnés depuis très très longtemps, depuis peut-être les premières représentations artistiques, pour tester en fait les complémentarités des formes. Des espèces.
C'est ça. Au fond, sommes-nous tous des hybrides ? Alors, on est tous une espèce, mais on est aussi des hybrides. On peut d'ailleurs être les deux à la fois. On peut être plein de choses à la fois et penser plein de choses différentes. Hein. On va le voir ensemble. C'est ça que je trouve assez génial. Et je ne peux m'empêcher, Gabriel, de commencer par citer votre introduction, surtout en ces temps troublés, terribles et complexes. C'est donc adressé, hein, votre livre, à tous les bâtards, tous les métis, tous les centaures, tous les êtres panachés, hétéroclites, bigarrés, et croisés et mélangés qui se sont toujours entendus dire qu'ils n'avaient pas ou avaient trop d'identité. Il est grand temps de vous assurer que vous avez le droit d'exister. On peut être plusieurs choses en même temps, Gabriel Alpern. On est tous hybrides.
Alors non seulement on peut, mais en plus on a le droit. Et la question de l'hybridation, en fait, pose la question de la légitimité. Voilà, parce que le fait d'être plusieurs choses à la fois, d'avoir un pied dans plusieurs mondes, forcément, ça peut éveiller, provoquer la suspicion, la méfiance. On se dit, un pied dans plusieurs mondes, exactement. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas coller une étiquette. Et donc, nous, les êtres humains, nous adorons coller des étiquettes sur tout et tout le monde. Et donc, ça nous angoisse quand on ne peut pas coller d'étiquette. Et donc, il y a du coup toujours cette forme de légitimité du centaure, ou en tout cas des êtres hybrides, qui est remise en question. Et donc, à travers mes travaux de recherche, c'était effectivement cette légitimité que je voulais construire, donner enfin leur lettre de noblesse aux centaures.
Eh bien oui, aux centaures, aux hybrides qui sont, et là je me retourne vers vous, Romain Simnel, qui sont, vous le dites, les héros de nos mythes et de nos légendes. Enfin, le centaure de Gabriel Alpern, il est présent partout, nos auditeurs à Madagascar nous le disent, mais au fond, dans toutes les traditions, religions, civilisations du monde, on a toujours représenté des hybrides.
Oui.
Et les dieux sont souvent hybrides.
Les dieux sont parfois hybrides, parfois ce sont les titans. En fait, les civilisations se sont répondues les unes par rapport aux autres, donc les Égyptiens, par exemple, l'Égypte ancienne, a véritablement utilisé la figure de l'hybride comme un modèle idéal. Donc le modèle du dieu, les dieux, hein, je pense à Thoth, par exemple, ou à d'autres dieux qui étaient des combinaisons, en fait, entre parties d'espèces différentes. Mais pour les Grecs, les hybrides étaient des titans. Donc quelque chose qui sème le désordre. Donc là, on n'est pas dans le modèle idéal. Et en fait, les civilisations ont repris chacune à leur manière, cet hybride, pour penser l'espèce.
On va y revenir à justement comment penser l'espèce, pourquoi il y a eu l'espèce, pourquoi est-ce qu'à un moment on a arrêté d'imaginer les hybrides, parce que Gabriel Alpern, vous le dites vous aussi, l'hybride il occupe notre imaginaire depuis toujours.
Alors oui, mais c'est là où justement il y a une distinction, il y a ce que l'on imagine, mais il y a ce que l'on apprend à penser. Et c'est là le vrai sujet, c'est qu'en fait, on ne sait pas penser l'hybride. On n'a jamais vraiment su penser l'hybride. C'est une forme un peu d'angle mort. Et puis, plus le temps a passé, moins on a su justement le penser, encore une fois, parce que ça n'entre pas dans nos cases. Et puis, il y a cette espèce d'hyper-rationalité qui était très utile au début pour pouvoir construire les sciences, expliquer le monde qui nous entoure, les phénomènes naturels. Mais,
donc, cloisonner d'abord.
Voilà, mais force est de constater que notre rationalité s'est tellement rigidifiée au fil des siècles qu'elle a un peu transformé notre cerveau en usine de production massive de cases et au point qu'on fait ça toute la journée. Alors, il y a les agriculteurs, il y a les jeunes, il y a les seniors, il y a la banlieue, il y a le cœur de ville, il y a etc., etc. On passe notre vie à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et en fait, ce faisant, on maltraite la réalité en la découpant en morceaux et on passe à côté en fait, de la réalité.
Ouvrons les portes, les fenêtres autour de la question pourquoi faire l'éloge de l'hybride ? Pourquoi cette figure qui hante tous nos mythes et légendes ressurgit-elle aujourd'hui et pour le meilleur ? On continue de s'interroger juste après une petite visite sonore de l'exposition actuellement au Louvre Lens consacrée aux animaux fantastiques Romain Simnel et presque toujours hybride, extrait de l'audio guide de l'exposition remixé par Thibaut Baduel.
Bonjour et bienvenue dans l'exposition Animaux fantastiques. Je m'appelle Hélène Bouillon et avec mes commissaires associés, Caroline Turek et Jeanne-Thérèse Bontinck, nous vous invitons à découvrir l'histoire des animaux fantastiques.
Oh ! Il n'a pas l'air commode celui-là !
Un dragon au corps annelé, aux ailes de chauve-souris, aux serres d'aigle, à la longue queue,
aux dents acérées et à la langue de serpent. Aigle léontocéphale, c'est-à-dire un aigle à tête de lion. C'est un sphinx, c'est-à-dire un lion à tête humaine. C'est une chèvre qui a le corps d'un poisson. Celui-ci est un taureau androcéphale, un taureau à tête humaine. Ces animaux sont appelés serpopares parce qu'ils ont un corps de félin et des coups démesurément allongés qui font penser à un serpent.
Nos animaux fantastiques sont donc des hybrides d'une faune ancienne dont la trace a ainsi perduré à travers l'histoire.
Pourquoi tant d'hybrides dans notre imaginaire, Romain Simnel, et pourquoi Léonard de Vinci est-il, vous l'appelez comme ça, le maître de l'hybride?
Oui, le maître de l'hybride parce qu'il s'est positionné au croisement, au carrefour de différents mondes et qu'il a récupéré en fait des hybrides imaginaires de différents mondes et il les a utilisés en fait pour tester les limites du vivant, pour tester la mécanique du vivant. Donc pour lui, l'hybride, c'est un exercice de combinaison des formes. Ça lui a permis de développer l'anatomie comparée. Ça lui a permis d'imaginer la complémentarité justement des corps pour aller jusqu'à, par exemple, la machine volante.
Donc l'hybride, c'est aussi un formidable moyen d'imaginer, d'inventer autre chose, de se métamorphoser. Je vais me retourner ensuite vers Gabriel parce qu'il y a de ça.
Tout à fait, c'est la métamorphose, c'est la possibilité de toujours repousser en fait les limites de la combinaison des formes, de tester. Pour Léonard, ce qui est intéressant, c'est que l'humain était inférieur aux animaux du point de vue de la sensibilité. Donc, ce qui est révolutionnaire, personne encore aujourd'hui ne le dit.
Mais non, on a du mal même à dire que l'humain est un animal voilà. Comme les autres, donc, ou en tout cas un animal.
Exactement. Donc lui, il avait complètement renversé ce rapport entre nature et culture, et il a considéré que finalement, l'humain était inférieur du point de vue des sensibilités aux animaux. Donc, l'idée, c'était de rapatrier finalement cette sensibilité des animaux vers l'humain, pour augmenter l'humain. D'où l'exemple de la machine volante. Mais il avait aussi comme projet, par exemple, le fait de rapatrier les capacités olfactives du lion, de faire un nez artificiel pour que l'homme puisse avoir les mêmes capacités olfactives que le lion. Imaginons ce que l'humain aurait pu devenir, finalement, si on avait suivi le programme de Léonard. On serait aujourd'hui des hybrides mécaniques, parce que c'est ça. C'est en fait, il n'y a pas seulement que la biologie, c'est la mécanique, les prothèses, par exemple, le biomimétisme, hein, puisque Léonard, quelque part, est l'inventeur du biomimétisme.
S'inspirer de la nature et s'inspirer...
S'inspirer exactement des intelligences de la nature et les rapatrier pour augmenter l'homme, quoi.
Voilà. On va revenir aussi sur tous les interfaces homme-machine, parce qu'on en est là aujourd'hui, parce que cette figure de l'hybride, elle revient, elle ressurgit. Gabriel Alperne, pourquoi et comment vous, en tant que philosophe, vous dites qu'on en est à ce moment-là où il faut nous servir en fait, de cette notion d'hybridité, la penser, la repenser?
Oui, alors enfin, j'avais mille choses à dire par rapport à la question de la création et de. Oui. Voilà, mais alors je réponds ou je.
Comme vous voulez.
Juste pour pouvoir filer par rapport à cette question de l'hybridation comme finalement comme peut-être meilleur moteur de la créativité et de l'inventivité. En fait, c'est intéressant parce que là, on a beaucoup parlé de l'hybridation à l'échelle de l'être, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à l'échelle des métiers, à l'échelle des lieux, ce que cela peut produire. Par exemple, on voit de plus en plus de tiers lieux se développer en France et à l'international avec des
un
lieux.
Un tiers lieu, alors, c'est c'est ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois.
Alors on va trouver dedans une épicerie solidaire, un incubateur de start-up, une crèche, une résidence d'artistes. Et le fait de mettre tous ces usages, ces métiers, ces activités, ces générations dans un même lieu permet de créer quelque chose de complètement inédit et peut-être justement de repenser les relations entre les différentes parties prenantes. Voilà. Donc c'est intéressant parce que en termes d'inventivité et même par exemple de création de nouveaux métiers, c'est peut-être dans l'hybridation de différents métiers que peut-être résident les métiers de demain.
Voilà. Ce qui veut dire que c'est une source et une ressource.
Exactement.
Pour l'inventivité. L'activité, l'imagination, comme pour la philosophe que vous êtes.
Exactement, tout à fait, parce que si nous restons chacun dans notre petit monde, dans nos petits lieux, dans nos petites identités, eh bien nous sommes voués finalement à un éternel rétrécissement. Et donc c'est intéressant, vous disiez Romain, vous disiez voilà, l'homme qui s'augmente. Moi je pense que ce ne sont pas les nouvelles technologies qui augmenteront l'être humain, mais au contraire sa capacité à pouvoir sortir de son petit monde, de sa petite identité pour pouvoir s'intéresser à l'autre. C'est d'abord l'hybridation, c'est pour ça que philosophiquement j'ai voulu justement appréhender cette idée, c'est d'abord une éthique, une nouvelle éthique éthique de la relation à l'autre que j'ai voulu construire.
Une nouvelle éthique de la relation à l'autre et une transformation, un processus de transformation un peu perpétuel. On est en mouvement et on doit le rester. Enfin,
exactement. Exactement. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Éloge de l'hybridation et pas l'hybride. Et c'est pour ça que depuis le début de cette émission, je dis hybridation et pas hybride. Parce que hybride donnerait l'impression que c'est bon, on s'est hybridé, puis je m'arrête là. Non, en fait, l'hybridation, c'est un mouvement permanent. La vie est une métamorphose permanente, une hybridation permanente. Et je me suis hybridée, et puis je continue, et je vais encore sans cesse vers l'altérité, pour pouvoir sans cesse augmenter ma petite identité. Voilà, c'est bien cette idée-là philosophique que j'essaye de défendre et de construire.
Autour de la question précisément, pourquoi faire l'éloge de l'hybride ? En clin d'œil d'ailleurs à votre bande dessinée, hein, votre fable du centaure, Gabriel Alpern, dessinée avec illustrée par Didier Pététain aux éditions Humaines Sciences. Et dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous faire gagner. On écoute justement Blondino, jeune artiste hybride de la scène musicale française qui chante précisément Centaure dans son dernier album Un paradis pour moi, Centaure sur RFI. Centaure de Blondino sur RFI, autour de la question pourquoi faire l'éloge de l'hybridité. Serions-nous tous centaures, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Gabriel Alpern, paru aux éditions du Pommier. Vous êtes également, je l'ai dit, autrice d'une bande dessinée, La Fable du Centaure. Bande dessinée, nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis auditrices et auditeurs, vous pourrez aussi remporter l'ouvrage de Romain Simnel, qui est également en direct avec nous, de l'hybride à l'espèce, la forme du vivant, de Léonard de Vinci à nos jours, de l'hybride mythologique à l'espèce scientifique, et vice-versa. Car aujourd'hui, la figure de l'hybride, on le dit, revient en force. Et c'est aussi parce que les avancées en science, hein, de la biologie, de la microbiologie notamment, mais aussi de la génétique, ne cessent de démontrer notre hybridité. Nous sommes autant bactériens qu'humains, de par notre cohabitation avec des milliards de bactéries. La frontière entre espèces est bien moins nette qu'on ne le croyait ou qu'on ne le voulait le croire. À ce sujet, je propose l'éclairage du philosophe des sciences et microbiologiste, Éric Batteste, porteur entre autres du Congrès international du CNRS sur les enjeux du microbiote. On écoute Éric Batteste sur ce concept d'hybride et d'hybridité.
Oui, moi je trouve que c'est un concept très important parce que les méthodes et la manière de regarder le vivant pendant des décennies, peut-être des centaines d'années, ça doit dépendre des cultures et des traditions, nous ont appris à séparer les êtres, séparer les choses. Une branche par-ci, une branche par-là. Une boîte par-ci, une boîte par-là, ou une boîte dans une boîte dans une boîte, c'est-à-dire faire des hiérarchies. Et l'hybridation, ça résiste à la hiérarchie, parce que ce sont des mariages de lignées. Ce sont des boîtes qui se rencontrent, ce sont des boîtes qui débordent. Et alors la pensée classique, elle n'est pas très à l'aise avec ce type d'unité. Mais je constate que dans le monde biologique, pour fonctionner, il y a des interactions partout. Ça veut dire qu'il y a des connexions entre des éléments qui viennent de différentes boîtes. Donc l'hybridation, c'est le fonctionnement. Donc pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel. Il faut pouvoir penser l'hybridation.
Et quand vous pensez l'hybridation en tant que biologiste, microbiologiste, ça veut dire l'hybridation entre des êtres vivants totalement différents, et notamment les microbes, les virus, les bactéries et les plus grands êtres vivants.
Il y a notamment ça, mais ça va même au plus petit, c'est-à-dire que les gènes eux-mêmes, nos instructions génétiques, sont le résultat d'hybridation entre des gènes qui venaient de différentes boîtes, des gènes de différentes familles. C'est du remodelage de gènes, des gènes fusionnés, des chimères. Il y a des chimères au niveau moléculaire et puis il y a des associations à des niveaux supérieurs. C'est un thème vraiment qui traverse les échelles spatiales de la biologie.
Nous sommes des chimères ?
Oui, ça oui.
Alors nous sommes des chimères ? Des hybrides, ce serait quoi d'ailleurs la différence entre des chimères et des hybrides? Les auditeurs aussi sur les réseaux sociaux nous demandent si la symbiose, c'est pareil que l'hybridation. Je ne sais pas qui veut répondre. Gabriel.
En tout cas sur la question de la chimère, en fait, ce qui me gêne avec cette idée de chimère, c'est qu'il y a quelque chose du coup qui serait presque idéaliste ou quelque chose du coup qui n'existe pas, alors que finalement, à travers cette figure du centaure que j'ai souhaité réhabiliter.
Donc le centaure, on le rappelle, c'est une tête d'homme ou de femme sur un corps de cheval.
Exactement, tout à fait, figure hybride
par excellence.
Et en fait, ce qui est intéressant, enfin en tout cas moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que pour le coup, être un centaure n'est pas le luxe de quelques-uns. Voilà, tout le monde peut être un centaure, à condition justement, encore une fois, de sortir de sa petite identité, de s'intéresser voilà, à un autre métier, à d'autres manières de faire, aller vers l'autre. Voilà. C'est ça, finalement, être un centaure. C'est une forme, alors peut-être très ambitieuse, d'être un être humain. Mais en tout cas, dans cette forme d'altérité par rapport à l'autre. Donc, pour le coup, ça n'est pas du tout une chimère.
Et c'est pour ça c'est une réalité qu'on veut faire advenir. Enfin,
exactement.
C'est ça.
Mais c'est pour ça que votre question tout à l'heure sur finalement, nous sommes tous des hybrides, je dirais non. En fait, c'est un combat de tous
encore.
Les jours. C'est un combat de tous les jours. Il faut lutter contre soi. C'est tellement facile d'être un pur sang. C'est tellement facile de s'enfermer dans ce qu'on connaît, sur les réseaux sociaux, de s'abonner qu'aux comptes des gens qui pensent comme nous, de lire que des médias et des journaux qui correspondent à nos opinions, de lire que des livres qui correspondent à ce qu'on connaît déjà. C'est tellement facile de rester dans sa zone de confort. Mais en revanche, c'est une lutte permanente, justement, d'être un centaure et de pouvoir jeter son encre le plus loin possible, pour reprendre les mots d'Elias Canetti.
C'est ça, du philosophe et écrivain Elias Canetti. Romain Simnel, cette figure, cette hybridité, elle est à travailler tous les jours. Et en même temps, quand on vient du côté des sciences, on se rend bien compte, et c'est ce que vous disiez aussi, Gabriel, au départ, que les scientifiques et les humains que nous sommes, on avait besoin de classer, on avait besoin de mettre des espèces. Voilà, plutôt que de rester dans l'hybride, il a bien fallu en passer par là. Mais quoi, le temps serait venu maintenant de revenir à Léonard de Vinci, pour reprendre votre ouvrage, et de sortir de ces espèces de cases, boîtes, espèces qui sont bien plus fous qu'on ne le pensait. Enfin, ces frontières-là, elles ne marchent pas.
Elles ne marchent pas parce qu'on ne peut pas enfermer la vie dans une boîte, en fait. Donc, la vie, elle s'échappe toujours de la boîte. Donc, et en fait, l'histoire du rapport entre l'hybride et l'espèce, elle obéit à des cycles. Donc depuis que Aristote a commencé à conceptualiser la notion d'espèce, il y a eu des cycles comme ça où pendant un temps, on a eu besoin de penser énormément d'hybrides. Et pendant un autre temps, par exemple, je prends l'exemple de l'avènement du naturalisme. L'avènement du naturalisme dans le monde occidental s'est construit sur le génocide de l'hybride. C'est-à-dire qu'il a fallu évacuer le bruit de fond de tous ces hybrides imaginaires qui avaient été créés au Moyen-Âge notamment.
Pour
réaffiner, pour refocaliser sur l'espèce. Ça a été nécessaire à un moment donné. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que plus la science resserre la focale sur l'espèce, plus elle y voit de l'hybride. Donc du coup...
C'est ça.
En fait, voilà, et c'est pas seulement au niveau génétique. Là, on a parlé beaucoup de génétique. C'est vrai que l'affaire de Néandertal, ça nous a secoué quand même pas mal notre conscience.
On est métissé, on est voilà.
Alors qu'on se croyait au-dessus de Néandertal, on se rend compte que 60 à 70% de son génome se retrouve chez les êtres humains. On se rend compte que 80% du génome humain n'est pas humain. Mais c'est pas seulement la génétique. C'est par exemple l'étude des relations sexuelles interspécifiques, l'éthologie, donc l'étude du comportement animal, où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de rapports sexuels interspécifiques qu'on ne l'imaginait.
Qu'on ne voulait le penser ou qu'on ne voulait le croire.
Exactement, notamment chez les dauphins, ou le microchimérisme, ou les formes de vie microscopiques, donc la manière dont les virus, les bactéries influencent le génome, etc. etc. Donc, en fait, c'est, tout converge vers ça. Mais je suis assez d'accord avec Gabriel concernant donc, la distinction entre hybride et chimère. Chimère, c'est un côté péjoratif. En français, on dit c'est chimérique. Ça, c'est presque rien, finalement. C'est quelque chose qui... Voilà. Donc, et d'ailleurs, la chimère, à la base, c'est un être extrêmement composé. Donc, souvent, on appelle chimère, par exemple, le fruit d'une hybridation entre deux hybrides.
Donc c'est quand ça devient tellement hybride.
Tellement hybride. Par exemple, la gorgone, ça devient des espèces de monstres. La gorgone est souvent qualifiée de chimère. C'est pour ça que moi, j'ai préféré prendre le terme hybride, parce que l'hybride correspond à la fois à un hybride imaginaire et à un hybride biologique. Alors que la chimère, on a l'impression que c'est quelque chose d'imaginaire. C'est pas grand-chose, quoi, finalement.
On continue donc autour de la question de faire l'éloge de l'hybridité. De l'hybridation. Alors, je vous ai bien entendu, vous êtes philosophe et vous me surveillez de près. Vous avez raison, Gabriel Alpern. D'autant que c'est un boulot de tous les instants. Et comment dire, c'est un boulot de tous les instants qui est de plus en plus indispensable et nécessaire. Parce que quand on parle de case, de rester dans sa propre identité, il y a quand même ça. Vous avez parlé de pur sang et puis, oui. Et puis de centaure. C'est-à-dire que, voilà, c'est quoi? C'est un fantasme d'être, de rester ce qu'on est, de surtout pas se mélanger, et un fantasme identitaire alors, contre c'est... lequel il faut lutter aussi.
Alors, identitaire ou communautaire, hein, c'est
ou un communautaire, peu... C'est la même chose.
Identitarisme et communautarisme, c'est un peu le même combat. Oui, enfin, c'est un fantasme et en fait, surtout, c'est parce que c'est tellement confortable. On se pose beaucoup moins de questions. Sauf qu'encore une fois, sans s'en rendre compte, on se rétrécit au fil du temps. C'est pour ça que moi, justement, avec cette question et cette idée d'hybridation, pour moi, c'est pas juste un simple travail de recherche, c'est pas juste un énième mot à la mode, je le conçois vraiment comme un vrai projet de société. Parce que derrière, c'est comment est-ce que l'on repense les lieux pour en faire des points de repère, de manière à, par exemple, on voit de plus en plus de crèches dans des maisons de retraite, et bien comment est-ce qu'on pense l'intergénérationnel? Comment est-ce qu'on on repense l'aménagement des territoires, l'aménagement de la ville? Comment est-ce que l'on va repenser les métiers? Comment est-ce que l'on va repenser les politiques publiques pour arrêter de faire du catégoriel avec ce qu'on fait pour les start-upers, ce qu'on fait pour les agriculteurs, ce qu'on fait pour les jeunes, ou ce qu'on fait pour le grand âge? Voilà, c'est comment est-ce que d'un point de vue sociétal, on va peut-être arrêter de tous se ranger dans des cases et tous se coller les uns sur les autres des étiquettes et justement bah, peut-être penser nos métamorphoses réciproques.
C'est ça, et notre multiplicité, parce qu'on est multiples, on le sait bien, jusque dans nos contradictions. Et de fait, nous sommes tous des bâtards, ce qui devrait nous réjouir. Vous nous avez d'ailleurs, Gabriel Alpern, cité ce film ô combien réjouissant et qui résonne très fort en ce moment avec la terrible actualité au Proche-Orient. Ce film s'appelle Le Nom des gens, film génial, franchement, sorti en 2010, à prendre au énième degré, réalisé par Michel Leclerc avec Jacques Gamblin et la blonde Sarah Forestier, et qui pourrait se résumer par « Faisons l'amour et pas la guerre ». C'est en tout cas le rôle que s'est assigné la belle Baya Ben Mahmoud, qui est jouée par Sarah Forestier, quand elle rencontre un ornithologue, Jacques Gamblin, nommé Arthur Martin. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
Attends, t'es juif? Je suis arabe. Et en plus, on a plein de morts dans nos familles à cause des flics français. Non mais attends, c'est trop la classe. À nous deux, on est la France, tu comprends? Nos familles, c'est une partie de l'histoire qui fait l'amour à l'autre. Je crois que ça me donne envie de pleurer, là.
Je ne suis pas juif, ok? Je crois pas en Dieu. J'ai jamais mis les pieds dans une synagogue. Je me fous d'Israël et je m'appelle Arthur Martin.
Oh bah t'as honte, c'est tout.
Mais non. T'es musulmane, toi?
Non. Mais juif, c'est pas pareil.
Mais si, c'est pareil, on est des bâtards. Des gens qui savent pas vraiment qui ils sont ni d'où ils viennent. Mais c'est très bien comme ça.
Eh ben d'accord, on est des bâtards. Mais on est des millions de bâtards. Il faut tous qu'on couche ensemble pour qu'il y en ait encore plus. Tu sais quoi? Parce que le jour où il y aura plus que des bâtards sur Terre, la paix, elle reviendra. Les bâtards, c'est l'avenir de l'humanité.
On appelle ça la vitalité hybride.
La quoi?
En biologie. Deux spécimens qui s'accouplent avec des patrimoines génétiques éloignés, on appelle ça la vitalité hybride.
Et voilà la vitalité hybride extraordinaire, même si cet extrait aujourd'hui résonne peut-être encore plus et plus fort que d'habitude. Gabriel Alpern, vous voulez nous réagir, nous dire pourquoi vous avez absolument tenu, et nous aussi, à passer cet extrait?
Alors, effectivement, ce film a mis l'écho avec mes travaux de recherche et avec justement cette idée de créer des ponts entre les mondes, entre les temps. Et justement, c'était aussi en rebond par rapport à ce qu'a dit Romain Simnel par rapport à la question en fait, des cycles. Comment est-ce que l'hybride revient ou pas? Moi, dans mes travaux de recherche, j'ai vraiment vu, en tout cas dans l'histoire des idées, après dans l'imaginaire c'est peut-être autre chose, mais en tout cas dans l'histoire des idées, c'est intéressant parce qu'à chaque fois il y a eu un peu des chocs entre est-ce qu'on va enfin pouvoir être capable de penser l'hybride et de l'assumer. Voilà. Et manque de chance, dans l'histoire des idées, c'est toujours finalement l'hyper-rationnel et l'anti-hybride qui l'a emporté.
On n'y arrive pas,
On n'arrivait pas. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est pas tant en termes de cycle, mais si peut-être l'hybride revient subrepticement sur le bord de, enfin sur le, sur le devant de la scène, mais fragilement. Pour moi, le point de rupture, et c'est pour ça que je souhaitais réagir tout de suite après cet extrait, ce point de rupture, pour moi, c'est clairement la Shoah. Et ça, je l'ai vraiment, en tout cas, construit dans mes travaux de recherche. Parce que pour moi, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut encore penser après Auschwitz? Et comment est-ce qu'on peut, la pensée peut-elle de nouveau avoir une légitimité?
Après l'horreur absolue.
Exactement. Et donc, c'est pour ça que, à mon sens, certes, il y a peut-être eu des tentatives dans l'histoire. Mais là, effectivement, on a été au pied du mur avec cette question. Avec cette catégorie, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de génocide de la vie, et c'est bien ça ce qui a été tenté, ce qui a été fait. Mm-hmm. C'est tous ceux qui n'entraient pas dans les cases, tous ceux qui étaient bâtards, tous ceux qui étaient hybrides, les personnes handicapées, les juifs, etc., etc. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être ça qu'il est. C'est pour ça que c'est une question qui est aussi importante, et c'est pour ça que j'en fais un vrai projet de société. Parce que c'est une question de vie ou de mort finalement qui est en jeu ici.
Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Au fond, c'est une question de vie ou de mort. Romain Simnel, je pense que vous en êtes. On en est tous conscients aujourd'hui que l'hybridation, c'est en tout cas une piste, une réflexion qui nous fait sortir de nos hiérarchies, de nos cas, de notre spécialisation.
De nos catégories.
De nos catégories.
Oui, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on veut faire le génocide de l'hybride, puisque ça a été le cas dans plusieurs périodes de l'histoire, on n'y arrive jamais totalement. C'est-à-dire que l'hybride, il revient tout le temps. Il y a une anecdote assez forte à ce niveau-là. C'est en fait les premiers travaux de Linné, la première édition de Linné, qui est vraiment, qui incarne la figure du naturaliste rationaliste la plus poussée. Et en fait, il pensait avoir évacué complètement toutes les figures de l'hybride, etc. Mais non, il y en a deux ou trois qui sont restés, comme le Kraken, donc ce monstre des mers du Nord, qui s'apparentait à une pieuvre, etc. Et Linné a cru qu'il existait vraiment, quoi. Donc, ce qui montre que finalement, la frontière entre l'imaginaire et la réalité, quand on essaye d'évacuer complètement la figure de l'hybride, on y arrive jamais vraiment.
C'est la vitalité hybride dont parlait l'ornithologue
qui revient en permanence. Et j'aimerais revenir sur la figure de Léonard, parce que pour le coup, pour moi, Léonard, c'est quelqu'un Léonard de Vinci, qui a assumé pour le coup l'hybridation, son hybridation. Parce que ce n'est pas un hasard de voir que c'est un être totalement hybridé. Là, l'historien Carlo Vecce vient de montrer, de prouver les origines de la mère de Léonard, qui vient finalement d'Asie mineure. On comprend finalement cet imaginaire de Léonard de Vinci qui puise dans des êtres qui viennent de Perse, etc., etc. Lui-même est un être hybride, il l'a totalement assumé. Et donc, c'est extraordinaire de voir que ce personnage hybride, c'est lui qui a poussé justement cette philosophie de l'hybride au maximum, tout en assumant l'éthique, puisqu'il était végétarien, c'est quelque chose qu'il a intégré dans son mode de vie, en fait, dans sa manière de vivre.
C'est donc aussi, Gabriel Alpern, du côté des hybrides, de ceux qui ne sont pas à leur place, qui sont entre deux, qui sont trop de choses en même temps, qu'il faut aller chercher les solutions aujourd'hui.
Oui, parce que en rebond avec ce qu'a dit Romain, effectivement, on ne peut jamais éradiquer les hybrides parce que finalement, ils symbolisent l'altérité irréductible.
Ça
fait du bien qu'il y ait des altérités, qu'il demeure de l'altérité irréductible, incasable.
Et puis la vie elle-même, elle fabrique. Exactement. Pour la vitalité hybride, c'est pas rien. Vivant, il faut se mélanger, sinon c'est fini.
C'est exactement ça. Et effectivement, oui, les centaures, en tout cas, encore une fois, c'est d'un point de vue très métaphorique. Les centaures, je pense, symbolisent des chevilles ouvrières, des métisseurs, des traducteurs entre les mondes. Je vous donne un exemple très concret, d'un point de vue professionnel, par exemple. Bon, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels.
Êtes un peu hybride, vous aussi.
Exactement. Et notamment, l'une de mes missions était de voir comment s'inspirer les travaux des chercheurs pour pouvoir nourrir les politiques publiques. Et je me souviens qu'on avait autour de la table des chercheurs, l'administration, le politique, des mondes qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même temporalité, qui n'ont pas la même culture. culture, pas les mêmes intérêts, pas les mêmes représentations. Et en fait, ce qui est, de manière à ce que ce ne soit pas la tour de Babel à tous les étages, de manière à ce qu'il y ait une véritable rencontre, une véritable métamorphose réciproque entre ces temporalités, ces imaginaires, ces intérêts, eh bien finalement, il faut des centaures. C'est-à-dire des personnes qui ont un pied dans plusieurs mondes, qui savent ce que c'est que la temporalité d'un chercheur, mais qui savent aussi ce que c'est que l'urgence du politique et aussi ce que c'est que le temps de l'administration. Et qui va finalement être en mesure de pouvoir servir de traducteur et de métisseur entre ces mondes. Et finalement, dans toutes ces différentes rencontres, que ce soit des jeunes start-up avec des grands groupes, que ce soit dans des métiers différents, où finalement chacun est un peu enfermé dans sa science, ou dans son identité professionnelle, ou dans son métier, finalement, le fait d'avoir ces figures qui ont un pied dans plusieurs mondes, plusieurs métiers, plusieurs formations, plusieurs jargons professionnels, eh bien, ça va faire en sorte qu'il y ait une véritable rencontre, une véritable hybridation entre les êtres.
Sauf que ce n'est pas toujours facile, j'imagine, d'être un centaure.
Exactement.
Enfin, je le confirme. En tout cas, nous sommes au 21e siècle et ben voilà, il faut peut-être... Enfin, en tout cas, autour de la question, pourquoi faire l'éloge de l'hybride ? Il faut faire l'éloge de l'hybridation. Mais au 21e siècle, il n'y a pas que les hybridations homme-animal, il y a évidemment les hybridations homme-machine, les nombreuses interfaces entre nous et puis tous les dispositifs que nous inventons, avec lesquels nous interagissons, notre téléphone portable. Vous dites dans votre ouvrage, Gabriel Alperne, qui est à la fois appareil photo, journal intime, réveil matin et accessoirement téléphone. À ce sujet d'ailleurs, je vous propose un nouvel éclairage. C'est celui d'un chercheur en réalité virtuelle, Anatole Lécuyer, internationalement reconnu pour ses travaux, pour ses découvertes. Il dirige à l'INRIA, l'Institut de recherche dédié aux sciences numériques, une équipe de recherche qu'il a nommé hybride. Alors pourquoi avoir appelé son équipe de recherche hybride ? Explication d'Anatole Lécuyer.
Hybride, c'est un double clin d'œil. Le premier, c'est un terme de la communauté des interfaces cerveau-machine, les interfaces neuronales. On parle d'hybride BCI, hybride interface cerveau-machine hybride, lorsque ces interfaces commencent à mélanger plusieurs entrées, plusieurs types d'activités cérébrales en même temps pour essayer de décoder plusieurs choses à la fois, mélanger de l'activité cérébrale avec de l'activité cardiaque ou avec le suivi de votre regard pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre état mental, affectif, etc., cognitif, etc. Donc c'est un clin d'œil technologique et c'est aussi un double clin d'œil technologique parce que dans notre équipe, on essaye d'hybrider, de mélanger un petit peu toutes sortes de technologies, interfaces neuronales, mais aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les technologies haptiques, ces interfaces tactiles. Et donc, on est en train d'hybrider, en quelque sorte, ces technologies pour aller vers des systèmes interactifs qui vont mélanger plein de technologies à l'avenir, on l'espère, pour des applications avec une forte valeur ajoutée sociétale dans le domaine de la santé, l'éducation ou la formation, cette hybridation technologique.
On est des hybrides ? On est de plus en plus hybrides, à votre avis, Anatole Lécuyer ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les technologies sont de plus en plus hybrides et mélangent de plus en plus, en tout cas dans ce domaine-là, des capteurs, des actionneurs de nature très différente.
Nous voilà hybrides avec nos machines dont nous sommes dépendants, pour le meilleur ou pour le pire, Gabriel Alperne ?
Alors, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord, effectivement, avec ce qui a été dit, parce que, à mon sens, il n'y a pas vraiment d'hybridation homme-machine. Et c'est là où, justement, je vais expliquer très, très précisément ce que j'entends par là. C'est que, à mon sens, on ne peut s'hybrider, et en tout cas, avec la définition que je donne à l'hybridation, on ne peut s'hybrider qu'avec une entité qui est radicalement différente de soi, avec l'altérité. Voilà, l'altérité radicale. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est lorsque l'on parle des nouvelles technologies, on en parle comme s'il s'agissait d'une entité totalement extérieure à nous, mais ça n'est pas une entité totalement extérieure à nous, puisque c'est le fruit de l'homme, c'est notre production, c'est nous qui l'avons inventé. Donc en fait, dans ce transhumanisme, en tout cas dans ce lien avec les nouvelles technologies, il y a presque une forme d'onanisme, excusez-moi le terme, ou presque même quelque chose d'un peu incestueux dans la relation que l'on pense avec ces nouvelles technologies, parce que...
C'est déjà une partie de nous.
Oui, exactement. Il n'y a pas d'hybridation, on ne peut s'hybrider finalement, encore une fois, qu'avec un autre être humain.
Vivant.
Exactement. Et encore une fois, dans la figure du cyborg, pour moi, ça n'est pas un hybride. Voilà. Il y a une juxtaposition, il y a parfois d'ailleurs une assimilation du virtuel sur le réel, parfois même une fusion. Mais il n'y a pas une véritable hybridation au sens où j'entends, c'est-à-dire au sens d'une métamorphose réciproque.
Métamorphose réciproque. Romain Simnel.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'un des exemples les plus probants aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on construit l'intelligence artificielle à partir de métadonnées humaines. Et moi, mon grand souci, et c'est ce que j'explique aux étudiants, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle va encore augmenter la fracture entre nature et culture, puisque on ne construit l'intelligence artificielle que sur la base de l'intelligence humaine.
Et qu'il y a d'autres formes d'intelligence.
Il y a d'autres formes d'intelligence qui ont façonné notre propre intelligence. Donc, comment voulez-vous que l'intelligence artificielle ait de l'empathie pour les autres formes d'intelligence sur Terre si elle n'est pas elle-même nourrie par ce flux?
En même temps, il y a parfois du biomimétisme aussi dans l'intelligence artificielle.
Oui, mais le biomimétisme...
On s'inspire de certains insectes, on s'inspire.
On ne se laisse pas dominer, en fait. Ah. Il faut ouvrir le canal et accepter d'être investi, en fait, par l'autre forme. Et c'est ça toute la différence entre un transhumanisme, je dirais, égocentré, c'est-à-dire où les technologies vont servir uniquement les besoins et de l'ego humain, et, comment dirais-je, un transhumanisme plus éco-centré, c'est-à-dire un transhumanisme où on utilise les autres intelligences pour les comprendre.
Et en plus, en prolongement, c'est très intéressant ce que Romain vient de dire, en prolongement par rapport à la dernière phrase de l'extrait que l'on a entendu sur les nouvelles technologies sont de plus en plus hybrides. Bon, en fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est que bon, pendant le confinement, de manière à me frotter un peu avec tout ça, j'ai voulu apprendre à coder. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le langage informatique est tellement catégorique. En fait, on passe notre temps en fait, à créer des cases, des catégories, des sous-catégories. C'est terrible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, la manière dont on va capter, recueillir des data, donc dont on va traiter les data, la manière dont on construit les algorithmes, finalement, on passe notre temps à tout catégoriser. Donc, en fait, il n'y a rien d'hybride là-dedans. Donc, c'est pour ça que, attention, parce que finalement, est-ce que c'est quelque chose qui nous rend meilleurs ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui révèle peut-être nos pires penchants? Là est la question.
Autour de la question, pourquoi faire l'éloge de l'hybridation? C'est que je vous ai bien compris, Gabriel. Romain Simnel, vous nous avez conseillé une musique forcément et ô combien hybride, celle du compositeur Holger Suskaï avec Rolf Dahmer, qui mixe différentes musiques avec une incroyable voix vietnamienne. Le meilleur de l'hybride, c'est tout de suite sur RFI avec cet émouvant Boat Woman Song. Extrait de Boat Woman Song, extraordinaire composition hybride électroacoustique avec cette voix vietnamienne. Merci Romain Simnel pour ce choix musical.
Ouais, là pour le coup, c'est vraiment l'hybridation des mondes. Hein. C'est l'hybridation des sensibilités. Hein, parce que bon, on en connaît des musiques qui mixent différentes choses, etc. Mais là, Holger Suskaï est allé toucher véritablement ses sensibilités et mettre en rapport, finalement, faire dialoguer deux sensibilités qui n'ont rien à voir, qui n'auraient jamais pu se rencontrer finalement. Sans lui. C'est ça qui est extraordinaire.
Et ça marche autour de la question pourquoi et comment l'hybridation est peut-être une chance, notre chance, une piste à emprunter en tout cas. On l'a dit, l'hybride s'affiche aujourd'hui jusque dans nos salles de cinéma avec la sortie là maintenant du film fantastique Le règne animal avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos qui se transforment mystérieusement et hybridement, si j'ose dire, en homme animal. Bande annonce.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance, on va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine, ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
faut pas avoir peur.
Extrait de la bande-annonce du Règne animal qui est sorti sur nos écrans. Faut pas avoir peur des hybrides, Gabriel Alperne.
Non, alors non seulement il ne faut pas en avoir peur, et en plus c'est un joli défi d'essayer de le devenir et faire en sorte effectivement que les choses soient un petit peu plus hybrides autour de nous. Encore une fois, je parlais des lieux, je parlais voilà, des métiers, de plein de choses effectivement qu'il faut peut-être essayer de rendre un peu plus hybrides. Et puis en plus, au-delà de ça, ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est effectivement, on l'a un peu évoqué en début d'émission, sur ce lien justement entre l'être humain et l'animal et l'être humain et son rapport au monde. En fait, finalement, l'être humain a un peu trois temps dans la manière dont il pense le monde. Alors au départ, plutôt humanisme, on essaye de comprendre le monde. Bon, après, plutôt anthropocentrisme, où là, on ne se contente pas de le comprendre, on veut le maîtriser, le dominer. Puis là, maintenant, le transhumanisme, où il s'agit de le supprimer pour le recréer autrement, effectivement, en forme de métaverse ou en forme de... Bon, voilà. Donc la question, c'est peut-être comment est-ce que l'on va apprendre à se réconcilier avec c'est le monde ça. Autour de nous et peut-être repenser notre juste place parmi les animaux.
C'est ça, c'est une question de réconciliation. Vous dites, je crois que c'est un de vos derniers chapitres, Romain Simelane, réhabiliter l'hybride. C'est ça.
Oui, réhabiliter l'hybride, mais avec un hiatus qui est que l'hybride peut être aussi un piège idéologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir...
De nouveau l'enfermer dans... Enfin,
le réifier, le standardiser et surtout de voir de l'hybride partout. Je prends juste un exemple. Je prends juste...
Très, très court.
Très, très court. Aujourd'hui, certains parlent de l'effet du changement climatique, en fait, sur la naissance de plein d'hybrides, par exemple, comme le Pizzly, etc. Attention à l'influence des idéologies, justement, sur cette notion.
Attention à ne pas vouloir faire des purs sangs, hein, si je vous ai bien lu, Gabriel Alperne.
Oui, exactement. Et l'hybride est aux antipodes de l'idée du standard, de la standardisation. C'est justement ça. La force de l'hybride, c'est d'être dans la singularité. C'est pas d'identité, en revanche, la singularité. C'est ça, sa force.
Acceptons nos singularités, notre multiplicité et même nos contradictions. Devenons hybrides, ça pourrait être la conclusion de cette émission. Mais enfin, j'imagine que j'aurais envie de vous faire revenir hein, pour poursuivre cette métamorphose. Un grand merci à tous les deux. Merci Gabriel Alperne, merci Romain Simelane d'avoir fait halte dans notre studio pour cette émission hybride juste comme on aime. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Donc Gabriel Alperne, Tous sans tort, éloge de l'hybridation au pommier, magnifique ouvrage. Également une BD, La fable du centaure, un voyage initiatique aux éditions Humaine Science illustrée. Par
Didier Pétetin.
Merci. Et dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Vous pouvez aussi remporter l'ouvrage de Romain Simelane, De l'hybride à l'espèce, au PUF, Presse universitaire de France. La forme du vivant de Léonard de Vinci à nos jours. Il vous suffit de nous les demander par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs et à tous les hybrides que nous sommes et que nous allons devenir, j'espère. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Autour de la question @rfi.fr.
Cette émission hybride, forcément, a été diffusée une première fois le 11 octobre 2023. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, en direct, autour de la question des communs numériques ou comment résister à la fois à la dictature des algorithmes et à celle du marché, si c'est possible, avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Achowski au micro, merci pour votre écoute bienveillante. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.